Chers amis, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette émission qui s'intitule La tête hors de l'eau et qui a cette ambition incroyable justement d'essayer de nous faire surnager parmi tout ce qui encombre nos têtes, tout ce que les informations nous déversent à longueur de journée et nous sortir un petit peu donc notamment en ce moment de ce chaos qui semble régner au Moyen-Orient, mais qui a des conséquences évidemment pour tout le monde. Alors pour nous répondre à toutes nos questions, celles que je leur poserai et celles que vous pouvez également poser en envoyant des petits mots et des mails à Radio Courtoisie, j'ai invité ce soir François Martin, que vous connaissez, que vous entendez régulièrement sur Courtoisie et sur d'autres, réseaux sociaux, que j'ai déjà reçu pour ses livres précédents et qui vient d'en écrire un qui est sorti en février, qui s'appelle justement « La France dans le chaos du monde », d'où le titre de cette émission, qui est sorti chez Jean-Cyril Godefroy, donc en février. Et puis nous aurons par téléphone, car il ne lui était pas possible de venir à la capitale ce jour, Nicolas Mirkovitch, qui est quasi devenu influenceur sur les réseaux, puisque il publie très très régulièrement, notamment sur X, qui vient également d'écrire un livre qui s'appelle « Déclin et renouveau, comment les Français se relèveront ?» aux éditions des CIRT, c'est bien ça, je ne me trompe pas, oui, aux éditions des CIRT, en février également, donc vous êtes, voilà, je suis bien à jour des publications.
On ne s'était pas mis d'accord, hein, c'est chacun l'a fait de son côté.
Et exactement.
Et nous avons le même objectif, c'est de remonter le moral des Français d'une certaine façon.
C'est parfait. Alors avant, je vais quand même faire un petit édito, mais court, parce que nous avons beaucoup de choses à dire, mais on peut dire que c'est un mouvement d'humeur que peut-être pas mal de nos auditeurs partagent. Ce petit édito commence par cette phrase « Lorsque tout va bien, les fous sont dans les asiles. En temps de crise, ils nous gouvernent. » C'est une phrase de Carl Gustav Jung. On a fait sortir certaines maladies mentales du vieux grimoire où elles se trouvaient énumérées. Maintenant, elles portent d'autres noms. On ne les reconnaît plus. Il ne faut pas s'étonner dès lors de trouver étranges et dangereux tant de gens dans nos rues qui tuent, tant de gens dans les États, dans les parlements qui en sniffent de la bonne, et même au gouvernement, certains diront même jusque dans la présidence, partout la démence. À l'école, le périscolaire est devenu le péril scolaire car... Je cite, « J'ai bien le droit d'être porno ou pédo, on est en démocratie. »
C'était Jung qui disait tout ça, mais quelle préscience.
C'était juste la première phrase.
Plaisante.
Oh, il va me casser mon édito. Alors, donc, partout on est chez les fous. Ressortez le vieux répertoire. Oui, ce grimoire plein de poussière et de toiles d'araignée. Et mettez-le sur le net, l'autre toile, l'internet. Qu'on le remette en vigueur et les rues se videront. Poilus en tutu, dysphoriques, euphoriques, épuisant la pitié des enfants, avec leurs rires forcés aux lèvres écarlates et leurs rimels dégoulinants, barbus tueurs d'enfants, décapiteurs de profs, égorgeurs de prêtres, hurlant, Allah est grand, caïds de banlieue de 14 ans colorés, la puberté en bandoulière et le couteau sur leur cafetan, montant à la ville pour planter du blanc. Écolo dingo, interdiseur de feux de bois, de viande et bouffeur d'insectes craquant sous la dent, militant hurlant après un élu vaincu ou vainqueur, même s'il ne leur plaît pas, aux dernières municipales, brûlant sa voiture, menaçant ses enfants, paranoïa, mégalomaniaque, chute préoccupante de l'inhibition, mimétisme infantile de la violence, suite coprolalique de gros mots et d'insultes, hop, tous à la niche, seringue et camisole, pilule bleue et tour de jardin pour tous, et demain sera serein.
Catherine, je m'excuse, mais je suis obligé de partir, là, je peux pas rester, après avoir écouté ça, vraiment, excusez-moi, on se revoit le mois prochain, mais je m'en vais. Au revoir, Catherine. Oui, excusez-nous, c'était la blague du 1er avril, Catherine.
J'ai failli le croire. Alors, pour autant, je n'ai pas tout à fait fini, mon cher ami, parce que la suite va vous introduire précisément. Pour autant, la folie ne quittera pas le monde. Disparue ici, elle renaîtra par là et déchire désormais à nouveau le Liban qu'on aime tant et la rose de bombes et de drones, des paradis sur Terre, des paradis d'ailleurs fiscaux comme les Émirats Arabes Unis.
Tout à fait.
Et nous, ben on n'est pas si loin avec leurs engins de mort supersoniques menacés par les Mollahs depuis 86, attentat de la rue de Rennes, par le terrorisme à l'époque, nous le serions éventuellement aujourd'hui de manière beaucoup plus directe par des missiles longue portée qu'ils ne sont pas censés avoir, mais qu'ils ont quand même. Mes invités nous éclaireront sur ce point parce qu'on n'y comprend plus rien. Et nous sommes menacés depuis hier par Israël, mécontents qu'on n'ait pas laissé passer ou se poser, moi j'arrive pas à suivre, des avions chargés d'armes à leur intention. Nous sommes également menacés par l'UE d'un contrôle des réseaux qui rendra impraticable pour tout esprit ironique ou gentiment frondeur leur usage. Nous avons des menaces d'intervention dans les élections que l'UE ferait faire par l'Ukraine, par exemple, en Hongrie, où un train a été arrêté et contenait des millions en or, en billets, etc. Vous avez certainement tous vu ces photos qui nous font pendre la langue, car nous, chaque mois, on a de misérables bifetons. 5 millions par mois pour payer les opposants à Orban, œuvrant pour qu'il ne soit pas réélu. Voilà ce qu'on a cru comprendre. Alors, Trump et Israël disent avoir détruit l'Iran. Pas tout de suite comme prévu, mais bientôt, très bientôt, une semaine, deux, trois. Et nombre de journalistes et essayistes disent au contraire, mais non, l'Iran est indestructible, ils vont voir leur gueule à la récré, Israël et les ricains. Et le détroit d'Hormuz, finalement, qu'est-ce qu'on y fait? On fait mumuse? Voilà, donc déjà un paquet de questions.
J'avais pas pensé que Hormuz rimait avec mumuse. Effectivement, voilà, ça me serait pas venu à l'esprit.
C'est mon côté enfantin, vous voyez, j'aime bien. Alors, cher François, donc j'ai fait quelque chose de court. Hein, vous avez remarqué, quelquefois, je fais beaucoup plus long.
Non, c'était bien.
Mais là, j'ai bien lu votre livre et du coup, j'aimerais qu'on ait le temps d'en parler. Avec Nicolas Mirkovitch, à 15h, on commentera plutôt tout ce qu'on a dit aujourd'hui parce que je l'inviterai dans une autre émission pour son propre livre qui est plus centré sur la France. Nous, on va rester centré sur le monde, ce qui est déjà pas mal. Et donc, vous avez, je le rappelle, vous avez écrit l'Ukraine, un basculement du monde hein, en 2023, le temps des fractures en 2025 et donc vous étiez venu en parler ici. Alors, une autre question à laquelle on ne comprend rien, mais on reviendra après sur le contenu du livre. Moi, j'ai lu, Zelensky a signé un accord de défense avec le Qatar et l'Arabie Saoudite. Alors, quel sens ça? Est-ce que ce sont toujours des proxys de l'Iran, le Qatar et l'Arabie Saoudite, ou pas? Et le G7 maintenant appelle à un arrêt des combats et la liberté de circulation dans le détroit d'Hormuz. Franchement, on ne comprend rien.
Alors, sur l'histoire de Zelensky, c'est facile à comprendre. Quand on regarde Zelensky, il faut se dire, et je vais le dire en anglais parce que c'est « Where is the money ?» Et quand on s'est posé cette question, on sait où va Zelensky, c'est là où va l'argent. Si l'argent est aux États-Unis, il va aux États-Unis. Maintenant que l'argent n'est plus aux États-Unis, mais en Europe, avec les 90 milliards qu'on lui a reconnus, il va en Europe, en Europe, en Europe, en Europe. Et maintenant qu'il n'est pas sûr d'avoir son argent parce que l'argent doit payer des armes et que les Américains n'ont plus d'armes à lui donner parce qu'ils ont tout donné à Israël, alors il va dans les pays arabes du Golfe où il essaye de vendre sa technologie de ses drones, puisque c'est quand même un des pays qui a la meilleure mise au point au monde en ce qui concerne la dronisation.
Ah donc c'est vrai, ça.
Qui est la forme de la guerre moderne. Donc il va essayer de vendre ça à ces pauvres pays... qui se font bombarder par l'Iran tous les jours. Enfin, ils se font bombarder. C'est les bases américaines qui sont sur leur sol qui se font bombarder. Et j'ai expliqué pourquoi, parce que même ça, c'est un peu plus compliqué. Donc, il va essayer de leur vendre ce qu'il peut. Enfin, s'il pouvait vendre sa mère, je pense qu'il le ferait aussi.
Je ne suis pas
sûr qu'il la livrerait, par contre. Ben, c'est ce qu'on dit de populations qui vendent leur propre mère, mais qui ne la livrent pas, en plus.
Mais alors, quelle est la position du Qatar et de l'Arabie Saoudite vis-à-vis de l'Iran? Alors, c'est ça que je ne comprends
pas. Alors, il faut bien comprendre une chose, c'est que jusqu'à présent, le Qatar, l'Arabie Saoudite et tous les pays du Golfe étaient sous la protection des États-Unis. Sauf qu'avec la guerre d'Iran qui a frappé en même temps les intérêts américains dans ces pays du Golfe et progressivement ces pays du Golfe qui sont, je dirais, les otages parfaits de l'Iran... les otages parfaits parce qu'ils sont en même temps très riches et très faibles. Ils étaient sous la protection des États-Unis, mais les États-Unis ont enlevé toutes les défenses qui étaient censées les protéger, eux. La réponse est que l'Iran tape régulièrement sur Dubaï, etc., sur le Qatar,
et
etc.
Oui,
non pas pour frapper Dubaï ou le Qatar, mais pour d'autres raisons.
Pour les bases américaines et françaises éventuellement.
Françaises, ou pour les intérêts américains, etc. Donc du coup, ils se sont retrouvés, je dirais, je ne vais pas dire en culotte courte, mais en djellaba court. Alors, avec les patriotes qui sont partis pour défendre. ça vous fait drôle.
J'aime la notion de djellaba courte.
pour défendre Israël, qui n'arrive pas à défendre non plus, puisque le dôme de fer est tombé, comme on a vu, et que l'Iran tape à peu près tout ce qu'il veut aujourd'hui sur Israël, sur Dimona, sur etc. etc.
Alors,
mais donc, ils se retrouvent dans cette situation-là, et je pense qu'ils ont une situation extrêmement modérée par rapport à ce conflit, parce que je pense qu'ils anticipent la suite des choses, et qu'ils sont en train sérieusement de se demander si ce sont encore les Américains qui peuvent être leurs protecteurs dans l'avenir. Parce qu'évidemment, il y a les Chinois qui sont là. Vous savez peut-être, ou je ne sais pas, lorsque il y a eu plusieurs, je dirais, coups de canif dans le contrat, l'un d'entre eux, ça a été en particulier le moment où les Israéliens ont tapé sur la délégation du Hamas qui se trouvait au Qatar, où le Qatar faisait
ah oui, ça m'avait échappé,
le monsieur
ça, c'était
bon
au Qatar, mais oui.
Et visiblement, ils ont été prévenus 10 minutes avant en leur disant « Allez vite à la mosquée », et à ce moment-là, ça a tapé. Donc peut-être que c'était les Américains qui les avaient prévenus. En tout cas, les Qataris l'ont mal pris. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que le lendemain de l'attaque, les Chinois sont venus voir les Qataris en leur disant « Est-ce que vous ne voulez pas par hasard qu'à côté de la base américaine tutélaire qui est chez vous, on met une grande base chinoise, c'est-à-dire les Chinois sont en embuscade pour récupérer le pouvoir d'influence qui est aujourd'hui donné aux Américains. Donc, je pense qu'ils sont très embêtés dans cette situation. Les Iraniens n'arrêtent pas de leur taper dessus aujourd'hui en leur disant « Mais c'est pas à cause de vous, mais c'est parce qu'il y a les bases américaines chez vous et que vous leur permettez de venir nous frapper. Mais on est quand même les amis. » Donc, et eux, ils sont un peu entre le marteau et l'enclume dans cette situation. Donc, ce ne sont pas des alliés de l'Iran dans cette situation. Alors, ils disent aux États-Unis qu'ils voudraient bien participer, mais quelque part, je pense qu'ils n'y ont pas du tout envie et ils n'attendent qu'une chose, c'est que ça s'arrête, parce que pour eux, c'est une catastrophe économique absolue.
Totalement, oui, absolument.
Ils vont perdre 10 ans de... Et comme c'est construit sur du sable au sens propre, et au sens figuré, sur les puits de pétrole, vous voyez. Alors, je dis encore un petit mot pour qu'on comprenne comment cette histoire fonctionne. Vous avez deux types d'actions de la part de l'Iran et de la part des États-Unis. L'une, c'est ce que j'appelle le réversible, et l'autre, c'est ce que j'appelle l'irréversible. Quand on tape sur des systèmes de défense américains, c'est du réversible. Lorsqu'on tape... lorsqu'on tape sur les installations pétrolières ou les dépôts pétroliers ou encore pire les systèmes de désalinisation d'eau, c'est de l'irréversible. Lorsqu'on bloque le détroit d'Ormuz, c'est du réversible. Lorsqu'on mine le détroit d'Ormuz, c'est de l'irréversible. C'est-à-dire, dans un certain nombre de cas, en 10 minutes, le trafic reprend. Ça. Si on fait d'autres choses, il faut 5 ans.
Alors
donc,
justement,
on était au départ dans le réversible, aussi bien du côté des Iraniens que du côté des Américains, mais on a constaté que les Israéliens qui, eux, veulent entraîner les Américains dans une guerre de plus en plus longue et si possible irréversible, petit à petit, les Israéliens ont tapé sur les réserves gazières, des dépôts gaziers de South Pars, et à ce moment-là, les Iraniens ont tapé sur leur homologue au Qatar, ils ont tapé sur la centrale de Bushehr. À ce moment-là, les Iraniens ont tapé sur la centrale de Dimona. Ils ont tapé sur les systèmes électriques en plongeant la ville de Téhéran dans le noir. Et à ce moment-là, les autres ont tapé sur les usines d'aluminium. Donc, si vous voulez, on est en train de basculer progressivement vers l'irréversible. Et ça, évidemment, les Américains en ont très peur. Parce que le but des Iraniens, et ça il faut bien que les gens le comprennent, c'est d'utiliser une crise pétrolière pour provoquer deux crises aux États-Unis, une crise sociale par la montée du prix du gallon et la montée de l'inflation, etc., et une crise financière en faisant chuter la bourse. C'est ça qu'ils cherchent. C'est ces deux choses-là.
Qui cherche ça ?
Les Iraniens. À travers la crise pétrolière qu'ils sont en train de... Je lis, par exemple, je vous lis un petit message qui vient, par exemple, l'Agence internationale de l'énergie, qui dit ceci. La fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran et les dommages causés aux infrastructures régionales et les dommages causés aux infrastructures régionales, c'est-à-dire ça, c'est dans l'irréversible, ont entraîné ce qu'elle a qualifié de perturbation la plus grave jamais observée sur le marché mondial du pétrole. L'impact global dépendra de la durée de la guerre, de son ampleur et de l'étendue des dommages causés aux infrastructures et aux chaînes d'information. Ça, c'est ce que dit donc l'Agence internationale de l'énergie. Et ce que dit, par contre, voilà ce que dit la Fed. Hein, Fed met en garde. La dette nationale des États-Unis croît substantiellement plus vite que l'économie. Ça n'est pas viable. Cela ne finira pas bien si nous ne faisons pas quelque chose assez rapidement. Un avertissement clair et répété de Powell, qui est le patron de la Fed, hein, la trajectoire budgétaire actuelle est insoutenable à long terme avec un endettement public massif déjà supérieur à 100% du PIB et les déficits. Alors, c'est là-dessus que jouent les Iraniens pour faire en sorte que Trump, sous la pression de ses financiers, qu'ils lui disent « t'arrêtes maintenant parce qu'on n'est pas capable de tenir ». Et les Iraniens, et je vais finir avec ça, pour ça, utilisent le prix du pétrole, mais ils ne veulent pas non plus que le prix du pétrole augmente brutalement dans des proportions extraordinaires, parce que du coup, ils rendront la situation irréversible, ils créeront une crise mondiale qui serait préjudiciable non seulement aux Américains, mais également aux Chinois, et préjudiciable à tout le monde. Donc, ils sont comme des preneurs d'otages à l'intérieur d'une grande banque, ils ont piqué la caisse, et ils disent, bon, ben maintenant, si vous nous donnez pas la bagnole pour partir avec, ben, on tue un otage cet après-midi, on en tue un demain, on en tue un par jour, etc. etc. Et la mort totale, c'est des usines de dessalement d'eau. Et on constate que jusqu'à présent, ils n'ont tiré aucune usine de dessalement d'eau, pas plus au Golfe, les Iraniens, alors que eux n'en ont pas besoin, parce qu'ils dépendent à 90% de l'eau des montagnes. D'accord. Évidemment, c'est un pays totalement montagneux. Par contre, s'ils tapent les usines de dessalement d'eau, il y en a...
C'est la mort pour les autres.
C'est la mort en 24 heures, parce que tout le monde s'en va, puisqu'il n'y a plus d'eau. Et même Israël, qui dépend à 85% des usines de dessalement d'eau, ils n'ont pas tiré sur les usines de dessalement d'eau. Ça veut dire que ce qu'ils veulent, c'est une montée progressive. Et ils veulent qu'à un moment donné, Trump ait tellement peur de la crise financière et de la crise sociale qu'il prenne ses clics et ses claques et qu'il rentre chez lui.
Oui, mais là, on ne comprend pas
très... Et à ce moment-là, il rouvre le détroit d'Ormuz en 10 minutes.
On ne comprend pas très bien, d'une part, pourquoi il ne vise pas Israël, puisque l'Iran dit depuis 40 ans qu'elle veut rayer Israël de la carte. Alors, pourquoi est-ce qu'il ménage Israël, premièrement ? Et parce qu'Israël, en plus... a quand même lancé l'offensive la plus dure pour eux, sans doute, qui a été de décapiter les mollahs. De plus dur psychologiquement, je pense, parce que tout de suite, ça a été une répercussion
immense. Je ne suis pas sûr que la mort de Khamenei, du père Khamenei, n'ait pas été une libération pour le régime iranien.
Mais bon,
parce que c'était de l'ensemble de la Camarilla qui est au pouvoir en Iran, c'était probablement un des plus modérés. On l'a présenté comme un des plus durs, mais c'était un des plus modérés. La preuve, c'est que c'est celui qui s'est depuis toujours opposé à la militarisation du nucléaire iranien. Il a toujours refusé. Et alors, il y a même une réunion, un film tout à fait extraordinaire qu'on peut trouver, où il est avec son groupe de conseillers. Ils lui disent, on a la possibilité, avec nos technologies de missiles, de tirer des missiles à 4000 km, et il dit non, je veux 2000 km et pas plus, parce que je ne veux pas effrayer les Occidentaux, et ses conseillers s'arrachent les cheveux.
Donc ils ont abandonné l'idée de rayer Israël de la carte, si je comprends bien.
Je pense que ce qui, dont ils n'ont jamais voulu, c'est d'avoir un régime en face d'eux qui, lui, a voulu les rayer de la carte. Mm. Puisque c'est ça l'objectif d'Israël depuis toujours, oui. En tout cas de Netanyahou.
Alors,
donc
justement...
moi, quand je me retrouve avec un régime qui veut me rayer la carte, je dirais que c'est normal que je veuille que ce régime-là disparaisse.
Oui, mais d'un côté, vous venez de dire que voilà, ils leur font pas trop de mal quand même.
j'ai dit qu'ils n'avaient pas tiré sur, ils n'avaient pas utilisé l'arme absolue qui est de tirer sur les usines de dessalement.
Hein.
Par contre, ils ont tiré sur Tel Aviv, ils tirent sur Tel Aviv tous les jours. Ils ont tiré sur la centrale de Dimona, ils ont tiré sur la centrale électrique de Haïfa, ils ont tiré sur les dépôts pétroliers de Haïfa. Ils tirent sur le nord par le biais du Hezbollah. Donc, je veux dire, mais ils n'utilisent pas l'arme absolue, c'est-à-dire qu'ils sont encore dans un système de négociation qui est tel que si ça s'arrête, le détroit d'Ormuz se rouvre, ce qui sera bon pour les Chinois, puisque les Chinois ne veulent
donc,
pas non plus
juste,
que ça monte.
Juste une question, le détroit d'Ormuz donc, n'est pas miné, comme on l'a dit.
Non.
Voilà, parce qu'au début, on a dit ça. On a dit,
non.
Trump a dit...
Non. D'accord. Il n'a jamais été miné. Ceux qui disent ça disent des bêtises.
D'accord.
Par contre, s'il est miné, là, il faudra beaucoup plus de temps pour déminer.
D'accord.
Donc là, on sera dans une crise majeure et durable. Ce que, pour l'instant, personne ne veut, sauf Israël.
Oui, mais alors justement, voilà, j'ai une question de fond en lisant votre bouquin, notamment les pages 171, 172, 173, 174. Je le dis pour ceux qui auraient votre livre, qui, je le rappelle, s'intitule « La France dans le chaos du monde » et donc qui est sorti chez Godefroy de Bouillon.
Non, Jean-Cyril Godefroy.
Jean-Cyril Godefroy.
Il sera content d'écouter
le mois dernier.
L'émission.
Donc, moi, je suis très intéressée par le personnage de Trump parce que, comme beaucoup d'entre nous, on s'est dit, voilà, il arrive, il a des idées proches des nôtres, c'est formidable. Et tout. Et là, on a l'impression qu'il cafouille sérieusement. Alors moi, j'ai quand même des questions.
Oui.
Quand je lis votre livre, qui a donc été écrit avant la guerre.
Vous n'êtes pas la seule, chère Catherine,
avant
à
la
vous
guerre,
poser des questions, oui. Oui.
Il n'y a pas encore la guerre d'Iran dedans.
Non.
Hein. Voilà. Donc je lis, je résume un petit peu. Hein. Trump est dans le renoncement, a priori, à imposer la démocratie comme ils l'ont fait, comme les États-Unis l'ont fait jusqu'ici, les révolutions oranges, machin, etc. Priorité à la nation, c'est ce que j'ai retenu. Et du coup, il veut lutter contre les organisations internationales. Et il veut aussi la fin des migrations massives. Pour le moment, on n'est pas dans la guerre. Bon, il veut aussi, et là on s'approche un petit peu, lutter contre les idéologies radicales qui remplacent la compétence et le mérite par l'appartenance à un groupe privilégié.
Ça c'est plutôt aux États-Unis, oui.
Oui.
C'est la déwokisation des États-Unis qui veut.
Mais ça peut aussi s'appliquer à une diaspora, il y a une diaspora, mais il y a aussi les gens sur place, islamique, qui finalement va avoir une politique qui est entièrement centrée sur à la fois leur économie, leur idéologie, leurs droits.
C'est pas ce que j'ai voulu dire dans cette affaire. Et en fait, c'est pas ce qu'on lit dans le document de sécurité nationale. Quand Trump dit ça, parce que c'est dans le document de sécurité nationale, il fait référence précisément au fait d'abandonner la compétence et la qualité extrême de la compétence comme vertu prioritaire pour dire, ben toi, finalement, je te choisis parce que tu es homosexuel, toi parce que tu es féministe, toi parce que tu es noir, toi, qui est une politique de prise en compte des minorités et de faire des sortes de, je cherche le mot, de une politique qui consiste à donner la primauté à certaines minorités dans certains secteurs. Et il y a un exemple qui est très connu, c'est Boeing. Boeing a appliqué cette politique et Boeing aujourd'hui a plein de problèmes parce que la qualité générale de l'ensemble s'en est ressentie, puisqu'on a mis à la place des gens ultra compétents, on a mis des gens qui n'étaient pas compétents ou moins compétents pour des raisons qui étaient autres que celles de la compétence. Et Trump veut revenir à cette primauté de la compétence pour pouvoir redonner aux États-Unis l'avancée technologique qu'elle a eue à cette époque et qu'elle n'a pas aujourd'hui. Vous savez peut-être que, par exemple, dans l'industrie militaire, qui est un gros problème, la plupart des chercheurs, des techniciens de haut niveau sont précisément pas des Américains, sont des Chinois ou ce sont des Indiens ou des gens comme ça à qui on ne veut pas donner ces postes précisément parce que eux ne sont pas des nationaux. Mais ça veut dire qu'il y a aujourd'hui un énorme problème de compétences qui est venu précisément par cette politique délibérée de donner la primauté,
d'accord,
la primauté donc, aux après, minorités.
Voilà. Donc j'ai une seconde cartouche, donc voilà. la première voilà. est mouillée, elle ne s'applique pas d'après vous au système
je pense pas.
Musulman, ce qui pourtant non. est quand même, enfin eux donnent la priorité toujours, enfin bref. Et donc la deuxième question, ce que j'ai lu quand même, c'est qu'il veut
bétonner... La preuve, bétonner... pardon de finir là-dessus, c'est que le maire de New York qui a été élu est un musulman et qui cite oui. le Coran pratiquement dans chacun de ses discours. Non seulement Trump n'a pas fait en sorte de le faire perdre, mais il l'a même reçu 15 jours après à la Maison-Blanche d'une façon extrêmement amicale. Après qu'il se soit traité de nom d'oiseau pendant la campagne, il l'a reçu 15 jours après et la presse les a retrouvés hilares tous les deux et on dit mais... Pourquoi est-ce que vous le traitiez de fasciste et que vous le traitiez de... Ah bon, oui, mais c'était des propos de campagne. Et puis, en fait,
que le chef d'État reçoive le maire de New York, voilà. C'est un petit peu normal. Dans un
et,
sens,
New York, mais... et le maire de New York a été reçu, cerise sur le gâteau, et a été élu par 35% de la minorité juive de New York, qui est juive, mais qui est anti-sioniste.
C'était très... D'accord, très bien.
Ça, on ne rentrons pas là-dedans
parce que c'est très compliqué.
Non, et... c'est très, très important de le comprendre.
Vous savez qu'en France, maintenant, on assimile les deux, donc on ne
oui,
peut plus dire...
Oui, on est totalement contre l'histoire, quoi qu'on en dise.
C'est ça. Alors, deuxième cartouche, donc, parce ouais. que j'en ai essayé plusieurs, quand même, parce que je suis très étonnée de ce qui se passe, donc j'essaye de trouver des raisons, comme on fait normalement.
Ouais.
Et donc, dans votre livre, j'ai cru quand même comprendre, alors j'espère que cette fois, je ne me suis pas trompée, qu'il tient à maintenir la présence des États-Unis et leur influence dans justement sa sphère d'influence,
oui.
notamment l'Amérique du Sud, qui lui a largement échappé, qui a largement échappé à l'Amérique pendant longtemps, et qu'il est en
oui.
train de récupérer. Et j'ai cru comprendre qu'il ne voulait pas, finalement, intervenir dans la sphère d'influence, je cite, de ses amis. Je ne sais pas à quelle page vous avez écrit ça, mais bon. Donc, pourquoi intervenir pour Israël à ce moment-là, puisqu'il savait que c'était
alors,
un piège, l'Iran.
On est tout à fait d'accord avec ça. Et c'est ça, je dirais, qui a étonné la plupart des observateurs avertis qui avaient lu son document de sécurité nationale, qui avaient écouté la conférence et l'échange qui a été fait, l'interview qui a été faite par son secrétaire d'État aux affaires étrangères, Marco Rubio, avec la journaliste Megyn Kelly, le 30 janvier 2025, c'est-à-dire 10 jours après avoir été nommé. Donc, il a afficher la doctrine extrêmement claire des États-Unis et de Trump à ce moment-là en disant le monde est à vocation désormais à être gouverné par un tripode composé par les États-Unis, la Chine et la Russie. C'est ce qu'il a dit. Il a dit ça. Donc c'est d'une clarté absolue sur les intentions de Trump. Et... ce que Trump a fait avec cette affaire iranienne, c'est exactement le contraire
oui.
de sa doctrine et de ce qu'il a commencé à construire, qui était derrière les mots, etc. C'était on rend l'Ukraine aux Russes, on se désengage. C'était ça l'idée.
C'est ça.
Et donc il faut chercher des raisons particulières et il en existe et on peut les développer si vous voulez. Qui permettent d'expliquer pourquoi Trump est allé, je dirais, qu'est-ce qu'il est allé faire dans cette galère. Alors que, en fait, sa philosophie, non seulement sa politique et sa doctrine, mais également sa philosophie, consistait à faire le contraire de ce qu'il a fait. Donc, il y a plusieurs explications. Est-ce qu'on rentre là-dedans ou...
Oui, juste j'ajoute une chose, c'est que vis-à-vis même de la guerre elle-même, on sent dans les divers documents que vous présentez dans votre livre qu'il veut privilégier la diplomatie et le commerce autant que possible,
bien
et
sûr.
Pas la guerre. Donc,
mais tout à fait.
Est-ce que, par exemple, alors du coup j'ai pensé, mais il paraît que non, que quand il était en négociation plus ou moins avec les Iraniens et qu'est intervenu ce massacre, ils étaient tous réunis donc à un endroit et moi j'ai pensé que ça venait d'Israël et pas de Trump, parce que c'était pas sa logique, ça.
C'est absolument pas sa logique, en effet. Ceci dit, je dirais, ce qu'on a décrit, c'est la trame globale et générale de sa façon de penser, de sa façon d'agir, de ce qu'il a annoncé, de ce qu'il a fait. Ceci dit, il est vrai aussi qu'il a toujours détesté l'Iran en particulier. Et il y a une vidéo qui circule sur Internet quand il est jeune, au moment de l'arrivée des Mollahs, et surtout de la prise de l'ambassade américaine avec les 52 otages qui ont été en 79 ou en 80, je ne sais pas, je pense que c'est 79 parce que c'est 6 mois après l'arrivée de Khomeini. Et il a toujours ressenti ça comme une énorme humiliation pour les Américains qu'il a voulu faire payer aux Iraniens. Et il y a plusieurs fois où il a cité dans ses discours le chiffre de 52 en parlant de l'Iran, en disant ben, « on vous fera souffrir comme vous, vous avez fait souffrir Carter à l'époque avec les 52 otages ». Il l'a toujours eu en travers du gosier. Alors, je ne pense pas que ça soit ça la raison principale qui explique ce pourquoi il est parti dans cette guerre. Alors, je pense qu'il y a deux raisons principales pour lesquelles il est parti dans cette guerre. L'une, c'est que le Mossad a remonté l'information d'une façon qui est pour moi totalement inexplicable vers Netanyahou et ensuite vers Trump, le fait que le régime iranien n'avait presque plus de missiles.
Mais oui, on a entendu ça,
alors,
oui.
Alors, les généraux israéliens l'ont vertement reproché au Mossad en leur disant « mais ça fait 49 ans ou 47 ans que vous les observez et vous n'êtes pas capable de nous donner de l'information fiable avec laquelle on puisse réellement traiter. » Parce que le rôle d'un service de renseignement, c'est d'expliquer la réalité. C'est pas de dire des fois, les services de renseignement peuvent tripatouiller l'information pour la présenter de façon qui soit conforme aux politiques, pour que ça plaise aux politiques. Mais si vous dites aux politiques « votre ennemi n'a plus d'armes, allez-y », et que vous y allez et qu'ils sont bourrés d'armes, vous êtes passible de la cour martiale, je pense. Or, c'est ce que le Mossad a fait. Et l'autre raison, c'est de leur dire ben, « on les a tellement secoués avec la sédition qu'on a mise en place qu'on pense que le régime n'en a plus que pour une semaine ». Et si vous tuez le dirigeant, ben le régime s'effondre. Et ils ont dit à Trump, en fait, vas-y, on tue le chef, et puis on met la main sur le pays en une semaine. Donc il s'est dit, bon, ça va être une petite expédition rapide. Comme j'ai fait ça au Venezuela,
Maduro,
ça,
pas pareil,
ça s'est tellement bien passé, mais on n'est pas du tout dans le même contexte.
Non.
Et surtout, ce que les gens ne disent pas, c'est que Trump a un énorme problème, c'est la Chine. Pourquoi ? Parce que la Chine est aujourd'hui le principal raffineur des terres rares et raffine 85% des terres rares du monde entier. 85%. Ce qui est gigantesque. Donc, le monde entier est entre les mains des Chinois sur ce plan. Alors, il y a des terres rares ailleurs qu'en Chine, mais la Chine est le principal raffineur. Donc, Trump ne peut pas s'empêcher, ne peut pas faire autrement que de passer sous les fourches caudines de la Chine. Et la Chine, il y a un certain nombre de métaux dont j'ai plus le nom, 3 ou 4, je crois, que la Chine ne lui livre pas ou le fait traîner ou a mis un embargo momentané, etc. Donc Trump a un énorme problème parce qu'il a besoin d'acheter à son ennemi les composants des armes dont il a besoin pour se protéger contre
cet ennemi. Mais la Chine est alliée à l'Iran, en principe.
Alors, le fait pour lui de mettre la main sur l'Iran aurait été extraordinaire parce que l'Iran livre 15% des besoins chinois, ce qui est énorme pour la Chine. Donc, il aurait eu, pour négocier face aux Chinois, dire bah, « vous ne me livrez pas mes terres et moi, je ne vous livre pas votre pétrole ». Donc, il aurait rééquilibré, je dirais, la balance géopolitique qui est aujourd'hui en faveur de la Chine. Je pense que ce sont les raisons principales à part le fait de se dire, si je fais ça, je serai le plus grand président que les États-Unis n'aient jamais eu. Je fais ce que personne n'a jamais osé faire.
Oui, si on le flatte un peu, peut-être que...
Et il a minimisé, je pense, le danger.
Ouais,
parce que par ailleurs, et ça, je le cite dans mon livre, lorsque je parle de sa jeunesse, c'est un type qui a très bien réussi dans les affaires, mais qui a pris des risques énormes. oui. de racheter des casinos en particulier qui sont trouvés être des nanars et qui ont failli le couler. À plusieurs reprises, il a failli être ruiné et il s'en est toujours sorti. Donc je pense que c'est un type qui a très confiance dans sa bonne étoile et qui est persuadé que s'il fait un coup de poker, il va gagner. Sauf que là, c'est peut-être le dernier... vous savez, Napoléon a gagné 40 batailles comme ça, en se disant, voilà, oui. poker, je me bats un contre deux, un contre trois, un contre cinq, un contre dix et je gagne. Ben, il a perdu la dernière et ça l'a coulé.
Mais est-ce qu'on sait alors quelles sont les capacités réelles maintenant de l'Iran? Qu'est-ce qui lui reste réellement?
La plupart des analystes disaient que l'Iran a été extrêmement armé. L'Iran prépare son affaire depuis 40 ans. L'Iran a basé toute sa défense sur ses missiles. Donc, évidemment que l'Iran, dans une situation là où je dirais qu'il se présente un peu comme une immense araignée qui ont créé une immense toile d'araignée pour que la mouche occidentale vienne se prendre ses grandes ailes dedans, et qui prépare ça depuis des années et des années. Et ça, c'était Khamenei, qui était un prudentissime, qui voulait jamais faire la guerre, mais qui a préparé. Quand vous vous préparez à quelque chose comme ça, vous ne faites pas ça avec une petite quantité de missiles faible.
Mais on ne peut pas le savoir. On n'a pas, par exemple, des engins qui permettent de savoir...
Tout est souterrain chez eux. Ouais. Et dans les montagnes, en plus. Alors, comment vous pouvez le savoir? Il y a des usines entières. Ils ont montré eux-mêmes quelques images, histoire de nous montrer oui. à quel point on s'était trompé. Avec des usines entières, souterraines, à plusieurs centaines de mètres de profondeur. Où ils construisent des missiles, ils construisent des avions, ils construisent des drones, etc., etc. Et ce que je pense, moi, c'est qu'il y a toute une partie de l'Iran, si vous regardez, là, vous coupez l'Iran du haut en bas, à gauche, c'est toute la partie qui est bombardée. Mais la partie à droite, où il y a beaucoup de montagnes, n'est pas bombardée, parce que les missiles ne vont pas jusque-là. Et à mon avis... La majorité de leurs réserves, elle est là et ils n'y ont même pas touché.
Enfin, ce qui est quand même incroyable, c'est que par ailleurs, moi je sais depuis longtemps, par une amie qui vivait là-bas, qu'il y a un bâtiment entier, on peut dire, pratiquement consacré à la guerre envers l'Iran, en Amérique, depuis également 40 ans. Donc,
la guerre en Amérique, où ça en Amérique?
Non, la guerre de l'Amérique... contre l'Iran.
Où ça? À quel endroit?
Ah bah je sais pas, à Washington, j'en sais rien.
À Washington, oui. J'en sais rien. Oui, parce que les Américains, ils ont toujours eu, vous savez, ils ont des lubies comme ça, et ils ont toujours eu de bombarder l'Iran, ça leur a toujours...
Donc c'était prévu depuis très longtemps.
Mais ils l'ont pas fait.
Bah oui, mais c'était prévu.
Ils ne sont pas fait prendre comme Trump s'est fait prendre par Netanyahu.
Ils n'ont pas fait d'études assez poussées, ou alors ils étaient de mèche avec Israël, je sais pas, pour...
Catherine, quand vous regardez le détroit d'Ormuz... Oui. Et que vous voyez la place de l'Iran, et que vous dites j'ai 20%, j'ai 20% du pétrole et du gaz mondial qui passe par là, et vous dites il suffit que l'Iran étende la main pour bloquer le détroit d'Ormuz, vous n'avez pas besoin d'être un immense analyste et d'avoir fait Polytechnique
beaucoup.
Pour vous rendre compte que il faut pas aller chatouiller le lion qui est à côté du détroit, enfin c'est...
Mais à quoi ça sert de payer des gens pendant des années pour un truc que vous ne faites pas, et finalement vous le faites en n'étant même pas averti de la réalité, c'est quand même incroyable.
Je pense parce qu'ils n'ont pas pensé qu'ils auraient à faire la guerre, parce qu'ils étaient persuadés que le régime allait tomber dans la semaine. Je pense que c'est ça l'argument principal, et Trump s'est dit c'est le moment, je vais suivre mon intuition, je ne vais pas suivre mes conseillers, je vais y aller, dans une semaine j'ai gagné une des plus grosses batailles de l'histoire des États-Unis. C'est ce qu'il s'est dit.
Et alors,
il s'est planté lamentablement.
Enfin, on ne sait pas, on n'a pas encore la fin, mais enfin.
Ben, la fin, vous avez eu 2 millions d'Américains dans les rues, hier ou avant-hier. 2 millions d'Américains, c'est quand même pas rien.
Je ne dis pas la fin pour Trump, mais la fin de la guerre, on ne la connaît pas.
Ben, la fin de la guerre, moi je pense que... Moi je suis de ceux qui pensent que les États-Unis ont perdu. Moi, je pense que les États-Unis ont perdu. Les Américains savent très bien qu'ils n'ont presque plus d'armes. Ils sont partis pour une guerre qui devait durer, une semaine, disons un mois, maximum un mois. On va passer dans le deuxième mois. Les Américains n'ont absolument aucune façon d'empêcher que les Iraniens, s'ils ont suffisamment de réserves, et je pense qu'ils en ont, continuent à les étrangler sur le plan du pétrole, si vous avez regardé les cours du pétrole, ils continuent à monter. Ils sont en ligne droite, hein. Ça monte en ligne droite. Voilà.
Ne nous en parlez pas, parce que nous, voilà, on est là à regarder nos réservoirs et
voyez
tout. Bon.
La crise sociale, elle est déjà là aux États-Unis. Et la crise financière, on est à quelques jours. Vous avez vu, je vous ai lu ce qu'a dit la Fed. Ça ne peut pas continuer comme ça.
Oui, mais enfin bon, c'est la Fed, elle défend son... Oui.
Ben, c'est ça.
Alors, j'ai une question. J'ai lu donc énormément de choses sur tout ça, et pas seulement dans votre livre. Et notamment, j'ai entendu parler d'un plan caché de l'Iran. Est-ce que vous êtes au courant de ça, du colonel Alain Corvez qui a lancé
ce truc. Je connais bien, qui est un ami, que je connais très bien. Alors, le plan caché de l'Iran, non, qu'est-ce que c'est que ce plan caché de l'Iran?
Je ne sais pas, justement, je voulais poser la question.
Non, il y a un plan de l'Iran, bien entendu, pour se défendre contre dans le cadre d'une guerre américano-israélienne, comme je l'ai dit, dans laquelle il se prépare depuis des années et des années, dans lequel il y a effectivement les missiles, dont on s'aperçoit aujourd'hui qu'ils sont beaucoup plus sophistiqués même encore que ce qu'on pensait, qu'ils ont réussi à faire alors qu'ils sont soumis à un blocus honteux depuis 47 ans. 47 ans de blocus. Vous vous rendez compte? 47
oui.
ans. Comment ce pays a réussi à tenir jusqu'à présent? Après une guerre atroce que nous avons suscitée de l'Irak contre l'Iran, c'est l'Irak qui a attaqué l'Iran. Et quand on parlait en France d'attentats qu'il y a eu, on oublie qu'on finançait leurs ennemis dans le cadre d'une guerre qui a fait 1 million de morts quand même. 1 million de morts.
Ah oui, non, mais c'est la seule fois où nous ne sommes pas allés, nous. Oui.
Voilà, vous voyez. Donc, je veux dire que l'Iran, si vous regardez les choses, l'Iran a des bonnes raisons de nous en vouloir. Hein. Donc, on a facilement diabolisé l'Iran.
Oui, enfin, les gens on a des raisons de lui en vouloir, parce que tous les attentats qui ont été commis depuis 40 ans sont quand même...
Combien d'attentats il y a eu depuis 40 ans? Vous en connaissez beaucoup récemment?
Je sais pas, moi j'étais rue de Rennes, pas de chance, au premier.
En 85
86, ouais,
c'était en plein dans la guerre Iran-Irak. Et nous armions et nous soutenions l'Irak qui les a attaqués pour les détruire.
Attends, je croyais qu'on n'y était pas allé dans cette guerre, nous.
Ben, nous, on a soutenu l'Irak dans la guerre Iran-Irak.
Ben oui. Quand même souvenir qu'on n'avait pas marché dans la
combine.
Ben,
on n'y est pas allé directement, mais on a soutenu l'Irak.
Ah oui, enfin, oui.
On n'était pas du côté de l'Iran, que je sache.
Ah ben ça, on ne pouvait pas l'être, hein, c'est quand même... Mais bon, j'ai pris des risques aujourd'hui. J'ai invité deux personnages qui vont défendre l'Iran. Je suis désolé pour les auditeurs qui défendent Israël et les États-Unis en face, mais bon, c'est comme
Vous savez peut-être que 60... On n'a pas cessé de dire qu'ils maltraitaient les femmes, etc., etc.
Ah ben,
65% des étudiants sont les femmes.
Là, je vous arrête tout de suite. Je connais tous ces trucs-là. Non,
mais c'est la vérité.
Passez une journée sous un voile et on en reparlera. Non, ça c'est bien, oui.
C'est la vérité.
Personne ne peut excuser
ça. Vous voulez que je vous dise quel est le pays totalitaire de la région, Catherine?
Il y en a plusieurs, c'est sûr.
C'est lequel? Quel est le plus totalitaire?
Le Yémen, par exemple.
Non.
Ou alors là, c'est pour
c'est
les femmes,
le Yémen,
en tout cas,
c'est terrible. Désolé, c'est l'Arabie Saoudite.
Ah oui, mais attention, l'Arabie Saoudite, quand vous dites
attendez, c'est nos amis,
oui, enfin,
donc
j'ai
on peut
quand
pas
même
en parler.
J'ai quand même des gens qui y vont, qui sont pas du tout maltraités parce qu'ils ne portent pas un voile ou parce que, etc. C'est
en
pas
Arabie
vrai.
Saoudite,
non,
mais
en
vous
Arabie
plaisantez
Saoudite.
Ou pas?
Ah ben non, je plaisante pas, non. Non,
alors, les gens qui connaissent l'Iran, vous dites qu'il y a beaucoup de femmes qui ne portent pas le voile. Hein.
Enfin bref, on ne va pas se battre là-dessus.
Non, mais moi, je vous dis la réalité telle qu'elle est.
Je n'ai pas de parti pris, mais je pense qu'effectivement... Alors,
vous savez combien il y a de... Vous savez combien il y a de... combien il y a d'églises en Arabie Saoudite, Catherine?
Non, je ne sais pas.
Vous ne savez pas?
Non.
Il y en a zéro. Vous savez combien il y en a en Iran?
Je ne sais pas.
Il y en a 600.
Mais enfin, c'était un pays avant.
Il y en a 600.
Avant
il y en a
40,
600.
Mais ils n'ont peut-être pas tous détruits.
Vous savez combien il y a de synagogues en Arabie Saoudite, Catherine?
Non.
Il y en a zéro. Vous savez combien il y en a une en Iran? Il y en a une centaine. Où sont, à votre avis, il y a 600 000 juifs en Iran?
Ah, écoutez,
Vous savez où ils sont?
Oui, mais...
Est-ce qu'ils sont parqués alors qu'ils sont en guerre contre Israël?
Non, mais c'est pas ça la question.
Mais Catherine, il faut voir la réalité. Je ne cherche pas à défendre l'Iran parce que je suis pro-iranien. Je cherche à regarder la réalité des choses.
La réalité, c'est que la Perse était un très beau pays et que, comme d'habitude, les musulmans ont tout foutu en l'air. Voilà ce que je pense.
C'est pas vrai du tout.
Et quand vous lisez la littérature,
c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai
persane,
du tout.
Et vous voyez que c'était un pays. Enfin, vous voyez maintenant.
Mais il reste. Il reste profondément perse.
Qui a écrit des choses C'est complètement cette civilisation.
Non, j'ai lu des poèmes extrêmement jolis que je ne vous ai pas amenés, mais ne croyez pas ça. Je pense que vous devez vous départir. Je pense que vous êtes prisonnière d'une comment ça s'appelle ? Je me permets de vous dire ça, mais vous n'êtes pas la seule. Je pense que vous êtes prisonnière d'un discours de diabolisation permanente d'Iran depuis 49 ans.
Non. Moi, d'abord, je n'ai pas de parti pris dans l'histoire, simplement. Je pense que à quoi ça sert à ce moment-là qu'on lutte contre l'application de la charia en France si on la tolère là-bas? Je veux dire, c'est quand même. Il y a 3 manifestants, ils sont tués à 19 ans, peine de mort. On peut trouver ça tout à fait normal.
Interdisez-la dans tout le Moyen-Orient, pas en Iran.
Mais c'est l'Iran. Enfin, on ne va pas repartir là-dessus. Vous le dites vous-même, je recommande donc dans votre livre toute l'histoire de l'Iran, pour la guerre contre l'Iran. Vous vous rappelez quand même, elle ne vient pas toute seule, cette guerre. On n'a pas juste dit, tiens, il y a des femmes voilées, on y va.
Elle vient pas. On n'a aucune intention d'enlever d'enlever les voiles des femmes en Iran. Ce n'est pas nos intentions.
Il suffit de...
Nos seules intentions, c'est de mettre la main sur leur pétrole. C'est ça qui nous intéresse. Comment ?
Non, mais peut-être vous.
Voyons la réalité. C'est ça la réalité des choses. Demandez aux...
Non, mais on va pas se battre là-dessus, parce que de l'autre côté, il y a ceux qui disent qu'Israël veut faire la guerre
pensent des raisons de l'attaque.
Mais des experts, mon pauvre ami, il y en a plein qui ne pensent pas du tout la même chose. Donc voilà, mais moi, je vous ai choisi vous, c'est parce que j'aime bien ce que vous dites et ce que vous écrivez, donc je ne vais pas vous contester dans vos choix, pas plus que notre invité tout à l'heure, qui aura probablement la même position. Voilà. Simplement, je pense qu'il faut... Voilà, il y a par ailleurs, et on va recevoir certainement des courriers qui sont soit justement, c'est partagé, soit contre l'Iran, soit contre Israël, en disant mais c'est Israël qui voulait cette guerre, personne n'avait besoin guerre, et donc, etc. Voilà, il y a deux.
C'est la vérité, c'est la vérité.
Bref.
C'est la deuxième thèse qui est la vraie.
Alors, avant d'avoir notre ami. Nicolas Mirkovic au téléphone, je voudrais aborder une question que justement, dont je lui ai demandé aussi de parler tout à l'heure. La question de l'Europe. Quittons un peu le Moyen-Orient et voyons ce qui se passera et tendons le dos jusqu'à ce que les choses se décantent. Trump est accusé d'être anti-européen par ses opposants. Mais encore une fois, si on confronte cette opinion qu'il est contre l'Europe et ce qu'il dit lui, on n'est pas tout à fait dans la même mesure. Et c'est des choses que vous rapportez vous-même dans votre livre. Nous voulons que l'Europe reste européenne. Trump souhaite qu'elle redevienne elle-même avec son identité. Sans déclin économique, sans effacement civilisationnel, qu'elle ne se laisse pas mener par le bout du nez par une organisation transnationale, suivez mon regard, qui sape la souveraineté des États, donc l'Union européenne, qu'elle renonce à la censure, qu'elle stimule la natalité. Alors on est dans tous ces trucs-là, on n'est pas du tout bien parti. La censure, elle est en train d'être renforcée ces jours-ci. Sur les réseaux sociaux, sous prétexte de protéger les jeunes et sous prétexte de je ne sais quoi d'autre. Et stimuler la natalité, alors on n'en est vraiment pas là.
C'est contre cette Europe-là que, quand vous dites que Trump est contre l'Europe...
Je ne dis pas, ses opposants disent.
Il n'est pas contre l'Europe, il est contre une certaine forme d'Europe qu'on peut résumer en disant l'Europe de Bruxelles, en fait, ou l'Europe...
Mais c'est pas du tout pareil. C'est vicieux de dire il est contre l'Europe comme s'il était contre une entité parce que ça devait être sa vassale, etc. Enfin, on connaît l'histoire. C'est vicieux parce que c'est pas en tout cas ce qu'il dit. Après, ce qu'il pense vraiment, j'en sais pas. Mais en tout cas, c'est pas ce qu'il dit.
Lisez le discours de Vance que je cite dans mon livre.
Oui.
Lisez le document de sécurité nationale,
c'est
très
pareil.
Clair, au contraire.
Oui.
C'est très clair.
C'est pour ça
qu'ils veulent bien d'une Europe, veulent une Europe, mais pas l'Europe actuelle.
Oui, mais nous, c'est pareil. On a les mêmes désirs, exactement. Donc, je vois pas très bien où est le problème.
Mais il n'y a pas de problème, justement. Moi, je pense que Trump est notre allié dans ce sens-là. Je pense que Trump s'est embarqué dans une guerre qui n'était pas la sienne en Iran. Mais pour le reste, moi, je ne fais pas de calcul en disant ni que Trump est très bien, ni que Trump est très mal. C'est pas mon problème.
Mais là, je parlais de ses opposants. Je parlais pas de vous. Je disais ses opposants l'accusent d'être anti-européen parce que, soi-disant, il veut vassaliser l'Europe. Et comme il ne l'a pas vassalisée, bah, du coup, elle est bonne à acheter aux chiens.
Non, je ne pense pas. Je pense qu'elle était vassalisée auparavant. Mmh. Elle l'a toujours été. Regardez Obama. Ça, c'est cité par Montebourg. Lorsque on a appris par Snowden que tous les dirigeants européens étaient espionnés et leur téléphone portable, etc., on a demandé à Obama, histoire, ouais. Et Obama a dit « so what ?» C'est-à-dire « qu'est-ce que j'en ai à foutre ?»
Oui,
et
il n'y
a aucun dirigeant européen qui a protesté. Donc, on était le paillasson des Américains depuis bien avant Trump. Alors, comme c'est Trump,
et
on dit
«
oui, c'est
coup.
Un salopard,
et
etc. » Comment
et Israël, du coup.
Et Israël, dans le cadre de l'affaire
alors, justement,
Epstein, évidemment.
C'est intéressant de voir que depuis hier, on n'est pas persona grata en Israël parce qu'on n'aurait pas voulu. Alors, je n'ai pas compris si c'était que les avions chargés d'armes survolent le territoire ou se posent. Vous allez m'éclairer. Je vois que nous avons Nicolas en visio, donc il nous entend.
Qui nous écoute avec un certain ravissement.
Bonjour à tous les deux.
Et donc quoi, finalement c'est parce qu'ils ne sont pas posés ou qu'ils n'ont pas survolé?
Ben, je pense qu'encore une fois, Macron n'a pas été capable d'avoir une politique claire, comme l'Espagne, en disant « c'est pas notre guerre, c'était pas ma guerre ».
Ben non.
Donc, on n'ouvre pas le territoire et on permet pas, on livre pas des armes et on laisse pas les avions venir se poser pour se ravitailler.
D'accord, il s'agit bien de ça, alors.
Il a fait en même temps une politique disant, nous, on veut la paix et on est prêt à aller dans le détroit d'Ormuz pour pacifier une fois que ça sera pacifié. Et en même temps, on envoie le Charles de Gaulle dont on sait pas ni exactement où il est, ni ce qu'il fait. Donc, on a fait une politique, si vous voulez, claire ni l'un ni l'autre.
Comment ça, on ne sait pas où il est?
Il est censé...
Il ne peut pas se cacher, quand même.
Oui, mais je veux dire, quel est son positionnement aujourd'hui? Est-ce qu'il est là pour défendre Israël? Pour nous défendre contre qui?
Contre la guerre, en général.
Quelle guerre? Qui c'est qui nous attaque aujourd'hui? L'Iran ne nous attaque pas?
Non, mais c'est ce que dit Macron, vous n'avez pas entendu. Nous sommes là pour nous défendre.
Voilà. Oui, j'ai entendu ça, mais ça ne veut rien dire.
Ah oui, mais ça, personne n'a dit que ça voulait dire quelque
chose. Voilà, c'est ça le problème.
Bon, alors, on est toujours au Moyen-Orient. Moi, je voudrais revenir vers l'Europe. Pourquoi? Parce que, Nicolas Mirkovic, dont j'ai parlé tout à l'heure, j'ai annoncé la venue, et qui a écrit un livre qui s'appelle « Déclin et renouveau, comment les Français se relèveront ?» C'est un livre qui est consacré, effectivement, à la France, mais pas seulement. Et justement, je voulais... Puis en plus, cher Nicolas, vous avez écrit d'autres ouvrages, notamment un sur l'Ukraine, donc vous êtes axé également sur l'international, pas uniquement sur le national. Merci d'être là.
Merci pour l'invitation.
Et donc, je voulais arriver à l'Europe et à ce problème qui est pour moi un vrai problème, d'ailleurs quasi existentiel, parce que je suis allée... Avec mes étudiants, j'ai visité l'OTAN, figurez-vous. Il y a déjà un petit moment, et j'avais été très frappée, il y a bien, disons, il y a 15 ans à peu près, j'avais été extrêmement frappée par, par la propagande continue qui était diffusée, que ce soit par les dessins sur les murs, que ce soit par énormément de choses qui faisaient qu'on se sentait vraiment... Dans la nouvelle société américaine, américanisée, avec justement tout ce qu'on a maintenant, qui est arrivé ici, mais qui à l'époque n'était pas du tout arrivé en France. J'ai été très surprise. Et
quelle année c'était ça, Catherine?
Il y a 15 ans à peu près.
D'accord.
Peut-être un peu plus. Okay. Je me souviens plus très bien, en fait. Il faudrait que je regarde. Mmh. Et on avait visité le même jour, l'OTAN et l'Union européenne, la Commission, etc. Donc, on avait fait tout un... Mais j'ai été extrêmement frappée. Je m'y attendais pas. Je n'avais pas du tout d'a priori. Hein. J'y suis allée comme ça. Et je me pose vraiment la question. Donc, je pense que vous allez m'éclairer l'un et l'autre. Et sur, finalement, On voit que le pacte de Varsovie est tombé tout de suite, hein, dès juillet 91, avant même finalement la dilution de l'Union soviétique, alors que donc l'OTAN est resté, alors qu'il était soi-disant fait pour être une réponse au pacte de Varsovie. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que il est resté si longtemps, se cherchant pour une fois, Macron avait dit quelque chose de vrai, il avait dit que...
Je crois, d'ailleurs, je vous corrige avant que vous finissiez votre phrase, parce que je crois que le pacte de Varsovie a été construit en réponse à l'OTAN et non pas l'inverse.
Oui, enfin... Oui, mais il y a une question de timing, mais enfin bon...
Oui, oui. Le pacte de Varsovie, non, je crois, a été créé cinq ans après la création de l'OTAN. Désolé.
C'est le contraire ou c'est pas...
Non,
oui, Nicolas c'est sur Catherine.
D'accord, ok.
Vous voyez, donc c'est pas ça.
Enfin bon, ils ont été construits l'un contre l'autre, en tout cas.
Oui, mais en fait, c'est le pacte de Varsovie qui est une réponse à l'OTAN et pas l'inverse.
D'accord, bah, ça soutient encore plus mon propos, parce qu'une fois le pacte de Varsovie dissous, etc., et donc Macron avait dit de l'OTAN que c'est... Qu'est-ce qu'il avait dit?
C'était un
mort cérébrale.
Un état de mort cérébrale.
Voilà, oui, c'est ce que j'ai jamais pensé pour ma part.
Donc, hein. Oui, mais enfin... Qu'est-ce
il attendait
qui s'est passé
son prochain
Attendez,
client,
pendant,
simplement.
Pendant toutes ces années, depuis 91, alors on sait qu'il s'est vaguement occupé de certaines choses, mais enfin, c'était pas clair hein, ce que faisait l'OTAN. Et donc, voilà, comment expliquer et quelle est maintenant la relation de Trump avec l'OTAN? Parce qu'on a l'impression qu'il a vraiment pris ses distances. Voilà, c'est ma question.
Je vais laisser... Bonjour Nicolas, peut-être on va laisser Nicolas répondre, effectivement.
Oui.
Oh, bonjour François, Catherine, merci pour cette bonne question. En effet, à quoi sert l'OTAN? Je pense que c'est une question très pertinente, et surtout, à quoi sert l'OTAN pour la France? Je pense qu'on doit toujours regarder notre participation à des organisations internationales à travers un prisme français. Et derrière les beaux discours, derrière la propagande, en quoi est-ce que cette organisation nous sert? L'OTAN n'a plus, à vrai dire, de justification, je pense, aujourd'hui, ou alors sinon il faut qu'elle définisse. Quand on regarde l'OTAN, c'est une organisation de défense. Donc, si vous lisez la charte de l'OTAN, c'est une organisation de défense. Or, on a vu que l'OTAN a illégalement attaqué la Serbie en 1999, sans aval du Conseil de sécurité des Nations Unies. On a vu que l'OTAN a participé en Afghanistan, aux côtés des Américains. Pendant 20 ans, l'OTAN était présent sur place. Des soldats français y sont morts pour, soi-disant, chasser les islamistes. Et à la fin, l'OTAN est parti en laissant le pays aux mains des talibans. Donc, on peut se demander vraiment à quoi sert l'OTAN aujourd'hui. Et on voit que Donald Trump, lui, appelle au secours l'OTAN pour le sortir du bourbier iranien dans lequel il s'est mis. Et l'OTAN ne répond pas. Donc, si vous voulez, on voit bien qu'il y a des tensions au sein même de l'OTAN. Ça ne fonctionne pas. C'est une organisation, moi, je l'appelle ça très clairement, la Légion étrangère américaine.
Parce oui, que j'ai vu ça dans votre livre. C'est très rigolo.
L'OTAN, longtemps, les pays membres de l'OTAN ont suivi l'OTAN. Et d'ailleurs, il y a encore quelques jours, le secrétaire Mark Rutte, secrétaire général de l'OTAN, a dit que l'OTAN servait à projeter l'armée américaine à travers le monde. Donc ça c'est pas une vieille doctrine, ça date d'il y a quelques
clair,
jours, Mark Rutte qui le dit. Et c'est quand même assez impressionnant. Et je sais pas si tous les pays, les soldats membres de l'OTAN sont conscients de cela. Mais voici la réalité, et on voit aujourd'hui entre le discours de Macron d'il y a quelques années qui dit que l'État est en état de mort cérébrale, Trump qui disait pendant sa première campagne électorale avant 2016 qu'il se demandait à quoi servait l'OTAN, là aujourd'hui même, Donald Trump dit qu'il se donne la possibilité de sortir de l'OTAN,
voilà,
et Marco Rubio,
c'est ça.
Son secrétaire d'État, on dit qu'il pourrait faire la même chose. Alors, il ne peut pas juste en sortir comme ça. Aux États-Unis, il faudrait qu'il y ait une loi qui oblige un président américain à passer devant le Congrès. Enfin, une loi devrait être votée au Congrès qui doit, aux deux tiers, donner l'autorisation pour quitter l'OTAN. Ou alors, au Sénat. Ou alors, il faut que le Congrès vote une loi. Mais on voit qu'il y a beaucoup d'eau dans le gaz entre les États-Unis et l'OTAN, comme il y a beaucoup d'eau dans le gaz entre l'Union européenne actuelle et les États-Unis. Et très clairement, on peut se demander à quoi sert l'OTAN aujourd'hui. Et je ne vois pas en quoi cet organisme protège les intérêts des Français. Et j'aimerais terminer sur un point, Catherine. C'est que non seulement je ne vois pas en quoi l'OTAN protège les Français, mais il y a 10 ans, les pays membres de l'OTAN, les pays européens membres de l'OTAN, achetaient majoritairement de l'armement européen, d'origine européenne. Et nous savons que la France est un grand exportateur d'armement. Aujourd'hui, les pays membres de l'OTAN achètent à 60% de l'armement d'origine américaine. Et en Ukraine notamment, les États-Unis se sont sortis, pareil, d'un bourbier qu'ils ont créé eux aussi, hein, en poussant un coup d'État à Kiev en 2014. Et de nouveau, donc ils sortent, ils ne veulent plus la responsabilité politique. Ils laissent aux Européens la charge de mettre fin à cette guerre. Et les Européens se sont engagés à acheter de l'armement américain. Voilà. Donc, à quoi sert une organisation où on ne s'entend plus politiquement, on ne sait pas quelle est la finalité, on ne voit pas en quoi cela nous défend, et cela, en plus, endommage, amoindrit nos capacités de vente d'armement à d'autres pays européens. Je ne vois pas du tout l'intérêt. Je pense qu'il est important de quitter l'OTAN.
Je peux essayer de répondre à ça?
Oui, bien sûr. Après, j'aurai une autre question.
Je pense que l'OTAN, en fait, que Trump a deux visées contradictoires vis-à-vis de l'OTAN. Une première visée, c'est une visée, je dirais, matérielle, parce que l'OTAN est d'abord le syndicat des clients de l'armement américain de Trump, en fait. Donc, ça lui permet de syndiquer ses clients et de vendre plus facilement que s'il était obligé de vendre à chacun d'entre eux séparément. Donc, ça, c'est le côté positif. Et le côté négatif, c'est ce que ça lui coûte. On sait que fondamentalement, Trump n'est pas quelqu'un qui aime la guerre, nonobstant ce qui se passe aujourd'hui en Iran, qui a été fait, je pense, d'une certaine façon contre sa nature. Et donc, il a envie de se débarrasser de l'OTAN, et ça fait longtemps qu'on le constate. Donc, il a envie de s'en débarrasser d'un certain côté, et d'un autre côté, ça permet à ses marchands de canons de continuer à livrer des armes plus facilement. Donc, il est un peu, je dirais, hésitant ce qu'il faut faire. Alors, de temps en temps, il met un coup de bambou sur l'OTAN, histoire de préparer sa sortie demain, et puis après, en fait, il se réconcilie quand il faut livrer des armes. Il est un peu là-dessus.
Je vous arrête, voilà. François, d'abord parce qu'on va écouter un petit Bobino. Ensuite, j'avais prévu une petite chanson, je ne sais pas si on pourra l'écouter, spéciale pour Nicolas, et on parlera un petit peu de son livre aussi.
Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais, jamais donné, même pas 5 euros. Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016, Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux.
Quand je pense à la vieille Anglaise qu'on appelait le Queen Mary, échouée si loin de ses falaises sur un quai de Californie, quand je pense à la vieille Anglaise, j'envie les épaves englouties, long courrier qui cherchait un rêve et n'ont pas revu leur pays. Ne m'appelez plus jamais France, la France elle m'a laissé tomber. Ne m'appelez
Voilà, en hommage à Nicolas, parce qu'il commence son livre, donc « Le déclin et renouveau, comment les Français se relèveront », par justement une référence à cette chanson. Et il y a un chapitre même qui s'appelle « Ne m'appelez plus jamais France ». Et donc, je voulais nous faire un petit peu de retour vers une période qui est maintenant assez ancienne, mais enfin, Sardou s'est montré, finalement, on avait fait une émission sur lui, et j'en referai peut-être une, parce qu'il s'est montré au fil du temps, il avait des opinions, il s'est même fait censurer son émission contre les Ricains, si vous vous souvenez certainement, Nicolas Mirkovic.
C'est prophète, quand même.
donc voilà, on est revenu en Europe, et on est revenu, du coup, à votre livre. Je rappelle, puisque j'ai pas eu le temps de le faire tout à l'heure, que vous avez écrit justement un livre qui s'appelle Le Martyr du Kosovo, qui est sorti chez Jean Picolec en 2013, Bienvenue au Kosovo, aux éditions du Rocher en 2019, et L'Amérique Empire, jeu de mots, je suppose, en 2021. Et donc, je sais très bien que vous allez faire partie de ceux qui vont me dire des choses absolument terribles, mais ça ne fait rien, j'aime bien vous entendre, même si on n'est pas d'accord absolument sur tout, voilà.
C'est bien, c'est la confrontation des opinions qu'on peut tomber sur des consensus, et puis on doit savoir vivre avec des personnes qui pensent différemment de soi, c'est un peu la richesse de la...
Voilà,
la
liberté. Cela dit, il n'y a pas énormément de différence, j'en cite une là. J'en cite une comme ça pour qu'on voit un peu à quel niveau ça se situe. Dans la page 67, vous parlez de l'URSS et qui vous dites qu'il n'avait ni les moyens ni l'envie de nous envahir. Alors, moi je dis quand même que l'URSS a envahi la moitié de l'Europe et que ça a duré très très longtemps.
Alors quand je dis nous, je parle des Français bien évidemment, à cette époque-là, maintenant on sait de manière très sûre, c'est que l'URSS n'avait clairement pas les moyens, et moi j'ai cru, gamin, je vois encore ces affiches.
Combien de pays elle a conquis quand même? Pas mal.
Oui, elle a conquis ces pays, ça c'est clair, avec la complicité aussi des partis communistes locaux qui les ont accueillis à bras ouverts. Alors évidemment, je ne dis pas que tout le monde était d'accord avec ça, mais que ce soit la Pologne, la Tchécoslovaquie, les différents pays, à part la Yougoslavie qui avait un communisme un peu à part et l'Albanie, eh bien, tout le monde a un peu accueilli les Soviétiques en sauveur et les Soviétiques en ont profité.
Et avec la complicité occidentale également, parce qu'il fallait se partager l'Europe, donc ils n'auraient pas conquis ces pays-là si les Américains n'avaient pas été d'accord, je pense.
Ah non, bah alors là, ça va nous entraîner trop loin, j'arrête tout de suite. Moi, je disais simplement ça.
Dit Solzhenitsyn,
oui,
en tout cas.
Oui, mais bien sûr, et la complicité des Juifs derrière, oui, on connaît tout ça.
Ça, j'ai pas parlé de ça.
Mais c'est pour ça, bon. Et c'est pas un petit peu comme, moi j'aime beaucoup notre ami avocat de Catlino, comment il s'appelle de...
Régis de Castelnau.
Castelnau, mais c'est pareil, il a le même tropisme, c'est-à-dire que l'URSS a toujours tout bon. Alors moi, je trouve que la Russie, maintenant, elle a des très bonnes choses, mais j'ai pas le droit de le dire, on n'a plus le droit de le dire. Mais en revanche, j'avoue que l'URSS faisait plutôt partie de mes cauchemars quand j'étais adolescente.
J'en ai pas un portrait idyllique, hein. Je dis juste que on nous a bien fait croire que l'URSS ils n'en avaient pas les moyens. Ils n'ont pas pu gagner en Afghanistan, ils n'en avaient pas les moyens, ils n'avaient pas les missiles, ils avaient du mal à se nourrir. Et les experts de l'époque le savaient, et je dénonce ce double langage qui consiste à nous faire croire qu'il y a un grand méchant loup quelque part et qui n'est pas capable de nous attaquer pour, en même temps, développer une campagne de propagande et d'armement en disant, voilà, il faut s'armer parce qu'on va se défendre. Et ça, à travers les époques, ce n'est pas quelque chose de nouveau.
Non, bien sûr.
On a besoin de bons émissaires. Voilà.
Bien sûr, c'est ce qu'on connaît même en ce moment. Et puis, les premières pages du livre, je le dis donc pour nos auditeurs, sont très centrées sur justement ce qui ne va pas chez nous. Alors, on a tous une idée de ce qui ne va pas chez nous, mais vous développez ça, vous développez de manière très, très intéressante parce que vous apportez des preuves, des chiffres, etc., aussi bien sur les antidépresseurs et la dysphorie de genre chez les jeunes, aussi bien cette espèce d'idéologie Dumble Income New Kid, on ne doit pas dire ça ici, mais enfin, c'est l'idée d'avoir deux salaires et pas d'enfants, quoi, en gros.
Oui.
C'est intéressant parce que justement, je pense qu'on est dans cette période de réflexion sur ce que nous a apporté l'Amérique, qui nous a beaucoup détruits, mais on a toujours 10 ans de retard ou 15 ans de retard, voire 20 ans de retard sur eux. Donc on a maintenant en fait cette vague qui était celle d'avant Trump et que Trump essaye de casser. C'est pour ça que je suis très triste qu'il lui arrive des ennuis, parce que moi j'aimerais bien qu'il casse justement, qu'il continue à casser toute cette influence américaine qui est venue ici et qui nous a... Surtout, tout est venu d'ici, ici, là, que ce soit la théorie du genre, que ce soit, etc. Donc, c'est bien ce point que vous faites précisément sur cette influence américaine. Mais il y a aussi, vous rappelez, alors ça c'est contre cette invasion actuelle de l'islam. Je regrette, je vais faire de la peine à mon voisin qui aime beaucoup les mollahs, mais cette invasion actuelle de l'islam, vous l'opposez, et ça, j'ai été contente de le lire parce qu'on ne le lit pas souvent, et moi, je l'ai écrit aussi, mais bon, sur les origines helléno-chrétiennes de l'Europe, je pense que c'est très, très important de recentrer la pensée et de sortir finalement de ce débat sans fin. Hein, sur judéo-chrétien, romano-héléno, machin, mais pas chrétien, judéo, mais pas chrétien, etc. Je crois qu'il faut en sortir et que votre approche est tout à fait agréable dans ces premières pages, page 40, page 37, page 41, page 42. Quand vous dites dans votre, vous serez certainement tous les deux d'accord, comment les Français se relèveront par rapport justement à l'Europe, par rapport à l'OTAN même, par rapport à tout ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'on a, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, on a un président qui louvoie, hein, il louvoie d'abord à l'autre, mais la question est quand même que quand on a pris la défense de l'Ukraine, c'était quand même parce que l'OTAN avait proposé à l'Ukraine, et de manière très, très forte, hein, d'adhérer à l'OTAN. Donc ça a été quand même le début de la bagarre, non?
Oui, l'OTAN a proposé cela, alors que le secrétaire d'État américain et de nombreux responsables politiques de haut rang européens l'ont confirmé par la suite. Les Américains avaient promis à l'URSS de ne pas étendre l'OTAN un pouce vers l'Est en échange de la réunification de l'Allemagne et de l'intégration complète d'une Allemagne réunifiée au sein de l'OTAN. Et à partir du moment où les Atlantistes n'ont pas respecté leurs promesses, évidemment, les Russes se sont inquiétés de voir les frontières de l'OTAN se rapprocher dangereusement de leurs propres frontières. Et je pense que nous, Européens, nous ne voyons pas aujourd'hui la situation réelle. On ne se rend pas compte aujourd'hui qu'on est un peu utilisé dans les affaires de cette politique américaine. Et c'est ça ce que je condamne chez les Américains. Il y a beaucoup de choses que j'aime beaucoup, que j'aime aux États-Unis. Je le dis, je le répète à de nombreuses reprises pour pas qu'on me traite d'américanophobe primaire. Pour autant, on sert leurs intérêts. Il n'y avait aucun intérêt d'avoir une extension de l'OTAN. En quoi est-ce que intégrer l'Ukraine, la Géorgie, la Roumanie dans l'OTAN servait les intérêts de l'Europe à partir du moment où l'URSS était tombée? Il n'y en avait pas.
Et
on a une guerre avec plusieurs centaines de milliers. Et je rappelle qu'il y avait une guerre en Yougoslavie. Je rappelle, moi j'ai discuté avec Jacques Delors en tête-à-tête à l'époque et je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que vous laissez les Américains semer la guerre en Yougoslavie? C'était justement, si l'Europe existait, vous aviez l'occasion là de mettre tout le monde autour de la table avec des puissances, la France qui est quand même une puissance nucléaire, grande puissance, à l'époque elle était encore, dans les années 90, vous auriez pu mettre tout le monde autour de la table, et si les Yougoslaves, les différents États voulaient se séparer, ils pouvaient le faire amicalement. Vous avez laissé les Américains arriver, mettre leur grain de sel, vous avez laissé les Allemands jouer leur carte géopolitique, et pour la France et pour l'Europe, c'était une catastrophe avec une guerre civile, et on a reproduit, c'était la boîte de Pandore, hein. À partir du moment où les Américains avaient détruit les frontières qui avaient été reconnues par les actes d'Helsinki, l'acte final des actes d'Helsinki en 78, c'était l'ouverture de la boîte de Pandore à d'autres guerres, parce qu'à partir du moment où certains pays ne respectent pas les frontières, pourquoi est-ce que d'autres en feraient autant? Et cette politique européenne atlantiste que nous avons suivie avec nos partis de droite et de gauche aveuglément nous ont mené en partie dans cette situation aujourd'hui où nous n'avons pas de stratégie, nous n'avons pas de diplomatie, nous n'avons pas fait les efforts que les Français ont su faire au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Le plan calcul, l'énergie atomique, la relance de l'emploi et une stratégie diplomatique française unique. Charles de Gaulle avait réussi quand même à tenir tête au monde entier. Il avait réussi à discuter et avec les Américains et avec les Chinois et avec les Soviétiques. Il défendait à chaque fois l'intérêt des Français. Et nous avons cru que ce projet européen allait nous apporter la stabilité, la paix, la tranquillité, et nous aspirons tous à ça. Et tous les Européens qui étaient derrière ce projet, je pense pour beaucoup, aspiraient réellement à tout cela. Mais on ne voit rien de tout cela arriver. Au contraire, on voit la guerre, on voit le chômage, on voit l'anomie, on voit notre culture s'effacer, on voit la vie spirituelle s'effondrer, même si je garde un petit coin optimiste parce que je vois un rebond en ce moment.
Oui. Eh bien, on a un bon pape.
On va en parler après. Mais tout cela s'est fait au détriment du peuple français, de la France, des autres peuples européens. Et aujourd'hui, contre ceux qui disent il faut plus d'Europe, j'ai dit non, bien au contraire. Quand on est rationnel et intelligent et qu'on a testé une méthode une fois, deux fois, 10 fois, 1000 fois, 2000 fois et qu'elle ne marche pas, on change de méthode.
Ben oui.
On arrête. L'Union européenne ne fonctionne pas. C'est clair et net. Sinon, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et dans un monde qui bouge très vite, en ce moment où il y a une renouvelle redistribution des cartes, la France doit sortir de ces mécanismes supranationaux comme l'OTAN, comme l'Union européenne, tout en restant courtoise et amicale avec ses partenaires, on va dire, historiques. Là où elle peut défendre ses intérêts, elle doit sortir de là et tirer son épingle du jeu et s'en sortir seule. Parce que sinon, avec les autres, on a vu que ça n'a pas marché. Et quand je dis seule, c'est que nous définissions qu'est-ce qui est dans notre intérêt, que nous développions notre propre industrie. On a délocalisé comme toutes les entreprises du monde. Quand les Américains ont dit qu'il faut délocaliser, et maintenant, on ne sait plus rien faire. Et quand il y a eu le Covid, on n'avait pas de masque, on n'avait pas de respirateur. On a eu de l'aide de la part de Cuba et du Vietnam. Hein. Alors moi, je suis très heureux pour eux, mais ça en dit long.
Encore des communistes.
vous allez traiter de communistes encore.
Nicolas.
Mais ça en dit long sur notre indépendance et notre capacité à nous protéger.
Nicolas, que t'avais répondu Delors à l'époque, quand tu lui avais dit tout ça, qu'est-ce qu'il t'avait dit?
Ah, tu as raison, merci François de me rappeler ça.
Bah
il m'a dit, on n'avait pas le choix. Et dans le contexte de ma discussion, j'étais tête à tête, il n'y avait que lui et moi. On était en train de parler des États-Unis, de l'implication, de l'ingérence des États-Unis. C'était clairement, on n'avait pas le choix parce que les Américains ont décidé, c'est eux qui décidaient ce qui se passait en Europe. Il n'y avait pas de politique ni de pouvoir européen pour décider ce qu'il fallait faire en Yougoslavie. Ce sont les Américains qui ont décidé. Voilà ce qu'a dit Delors.
Alors, incroyable. Justement, puisqu'on arrive à un moment peut-être de certaines ruptures entre Trump et l'OTAN, et que nous, on a, supposons que nous changions de gouvernement, on peut toujours rêver, que nous, on a une tradition qui a été justement celle de ne pas entrer dans l'OTAN, on est revenu, mais etc. Est-ce qu'on pourrait pas en profiter pour justement mettre fin à cette dépendance? Surtout si les Américains n'abreuvent plus l'OTAN. Il y a quand même deux Amériques, celle qui, par le biais de l'OTAN, a soutenu les guerres en Yougoslavie, etc., et puis une autre qui essaye de défendre Trump, quand même.
Mais bien sûr, je le répète, je l'ai dit dans mon livre sur l'Amérique Empire, qu'il y a la majorité du peuple américain ne veut pas de ces guerres. Et le fait qu'ils aient voté massivement pour Trump, c'est pas l'unique raison, ils ont voté d'abord pour le pouvoir d'achat, mais ils ont également voté contre le wokisme, ils ont voté contre ces guerres qui sont ruineuses pour le contribuable américain et qui font du mal aux États-Unis et qui font du mal au monde entier. Où est-ce que les États-Unis ont apporté la démocratie et la paix? Nulle part. Ils ont enrichi leurs multinationales. Et donc, les Américains ne veulent pas de ça. Et aujourd'hui, il se passe quelque chose au niveau mondial et il faut en profiter. Mais oui. Non, on a une occasion. L'histoire ne repasse pas les plats, vous savez.
Oui.
Donc là, il y a les plaques tectoniques géopolitiques bougent. Et on ne sait pas jusqu'à quel point ça peut devenir plus grave que la situation qu'aujourd'hui, mais après, au bout d'un moment, ils vont se stabiliser et on va rentrer dans un statu quo. Donc, il faut profiter de ce moment où les plaques bougent pour dire, attendez, quittons ces organisations qui nous coûtent cher et qui ne nous apportent pas ce que nous espérions et retraçons notre voie, comme nous l'avons fait depuis le baptême de Clovis au 5e siècle. Si on allait croire que la France ne serait pas capable de vivre d'une manière souveraine dans ce monde actuel, c'est ne pas connaître l'histoire de France et c'est ne pas regarder des réussites d'autres pays. Bon, les Émirats arabes unis sont un petit peu en difficulté aujourd'hui, mais si vous regardiez ce pays-là il y a 50 ans, c'était un tas de dunes de sable. Singapour, et c'était des marécages avec des conflits ethniques. Vous avez plein de petits États qui réussissent à s'en sortir aujourd'hui. L'El Salvador met fin à la criminalité. Ils sont beaucoup plus petits que nous.
Oui.
Et pourquoi est-ce que nous, on ne pourrait pas mettre fin à la criminalité? Parce qu'on suit les lois européennes, parce qu'on est dans le wokisme,
oui,
parce
enfin,
qu'on regarde ce que font les autres.
On est largement... Nos socialistes sont encore pires que ceux de l'Union européenne. Donc, notre gauche.
J'ai tendance à les mettre tous un peu dans le même tas. Vous savez, soit les gens apportent des résultats positifs, soit je les mets de côté, quoi.
Et oui, donc il y aurait quand même quelque chose à soutenir de ce côté-là, sur la sortie de l'OTAN. Seulement, ils ne veulent plus maintenant, puisque l'objectif, c'est d'être contre la Russie, j'allais dire l'URSS, tellement on est encore dans le... Or, ils ne veulent pas lâcher ça. Cette idée de l'Ukraine rentrant dans l'UE et dans l'OTAN, ils ne veulent pas le lâcher.
Ce sont des idéologues.
C'est fou.
Vous voyez, c'est du fanatisme. C'est comme pour l'Union européenne. Quand vous avez tout testé que ça ne fonctionne pas, on est à plus de 20. Il y a 30 000 sanctions, 20 paquets de sanctions de la part de l'Union européenne. On est en train de rendre exsangues les économies des pays européens qui ont besoin de cet argent pour investir dans de la recherche et le développement, dans l'éducation, dans la sécurité. On voudrait assurer les frontières de l'Ukraine alors qu'on n'est pas capable d'assurer la sécurité de nos propres frontières. On est des donneurs de leçons et on n'est pas capable d'appliquer les leçons chez nous. Donc, et ce sont des idéologues, ce sont vraiment des fanatiques. Il ne faut pas avoir peur de le dire. C'est pas parce qu'ils sont élus. Et je rappelle que la Commission européenne n'est pas élue. Donc, c'est pas parce que des commissaires européens nous disent qu'il faut foncer dans la guerre.
C'est parfois encore pire quand ils sont élus. Donc.
Oui, c'est qu'ils soient élus ou pas élus. Soit ils pouvaient mettre fin à cette guerre rapidement et ils avaient raison, c'est la loi du plus fort, et là c'est pareil, c'est la loi de l'humanité. Mais ça n'a pas marché. Il y a des centaines de milliers de morts, ils risquent de perdre et ça nous coûte beaucoup d'argent. Et ça monte, c'est une faille. Si vous voulez, chaque fois que l'Union européenne, que ce soit sur le Mercosur, que ce soit sur les vaccins, que ce soit sur l'Ukraine, que ce soit sur la sécurité de nos frontières, sur l'Europe puissance, tout cela est faux. Si vous voyez, il n'y a rien de tout cela qui a été réussi. Rien du tout.
Oui, enfin.
Notamment l'Allemagne qui essaie de tirer son épingle du jeu, qui a de plus en plus tendance à faire cavalier seul. Et nous, on serait les seuls dindons de la farce à payer plus qu'on reçoit de l'Union européenne, à suivre aveuglément toutes les directives qui viennent de l'Union européenne, à partager notre énergie avec. On a investi, le contribuable français a investi dans le nucléaire. On s'est battu contre les Américains. Les Américains ont tout fait pour que De Gaulle ne puisse pas développer l'énergie nucléaire en France. On l'a fait. Et aujourd'hui, on partage ça avec les autres Européens au détriment de nos propres industries et du bien-être des Français. Mais est-ce qu'il faut être fou? Quand les générations futures vont nous juger, ils vont dire vraiment qu'on était la génération la plus tarée de l'histoire de France. Hein. Donc, au bout d'un moment, ou on suit cette route-là, ou on s'en sort et on dit « Attendez, non, ça ne marche pas, on en sort. » Et tout en travaillant et en œuvrant pour la stabilité, pour la paix, on va chercher à défendre nos propres intérêts dans un monde qui bouge.
Alors, il nous reste 4 minutes 58, 4 minutes 57, 4 minutes 56, 4 minutes
55. Il n'y avait pas une question d'un auditeur.
Et donc, non. Et donc, je voudrais vous remercier tous les deux, François Martin, donc, pour ce livre « La France dans le chaos du monde », qui est sorti chez Cyril Godefroy. Cette fois, je ne vais pas me tromper. Jean-Cyril Godefroy. Oh là là, je suis désolé, vous m'excuserez auprès de lui. Et Nicolas Mirkovitch, « Déclin et renouveau, comment les Français se relèveront ?» Donc, nous avons rendez-vous, Nicolas, pour parler de votre livre, et cette fois plus purement de la France et plus purement de l'intérieur et de l'interne. Enfin, mais là, maintenant, dans les quelques minutes qui nous restent, qu'est-ce que vous pourriez dire? Alors, je sais que c'est un peu idiot, ça se fait dans les émissions à la télé, c'est idiot, mais j'ai quand même envie de le faire. Qu'est-ce que vous dites? Quelle est la priorité à quoi on doit penser aujourd'hui en France pour sortir de ce chaos? Voilà.
Alors, je vais aller vite, mais on va aller droit au but. D'abord, il faut renouer avec ses racines helléno-chrétiennes, comme tu le disais tout à l'heure, Catherine. Indispensable.
Comme
il
le disait Jean-Paul II, avivez vos racines. C'est une phrase de Jean-Paul II.
Et Jean-Paul II l'a dit, Simone Veil l'a dit, c'est dans nos racines qu'on va s'en sortir. Le peuple français disparaîtra quand il n'y aura plus de culture française. Donc c'est important, et ces cultures sont helléno-chrétiennes. Voilà. Donc je pense que c'est indispensable de nourrir ces chrétiennes. Et ça, c'est un travail de chacun. Tous,
nous agissons beaucoup sur Radio Courtoisie pour ça.
Et sur Radio Courtoisie, vous le faites très très bien. La culture française, la langue française, le cultiver. Et deuxièmement, qui est tout aussi important, donc du coup, il y a le côté, je dis, spirituel, chrétien, la culture, et vous avez aussi l'engagement dans la société. Ce que vous faites là aujourd'hui, c'est fantastique. Ce qu'il faut, c'est s'engager. Et s'engager, c'est pas toujours en politique. On peut faire beaucoup de bien dans une association de quartier. On peut faire beaucoup de bien dans sa famille, dans une association de quartier. On peut participer à des groupes de réflexion. On peut faire de l'humanitaire. Il faut aller au contact de ces Français parce que beaucoup sont perdus. Ils ne savent pas. Et notre discours est un discours de quoi? De bon sens. On veut défendre la justice, on veut défendre la paix, on veut défendre notre culture, notre droit de louer le bon Dieu. Voilà, c'est quand même pas compliqué. La plupart des gens sont même pas contre ça. Si on leur parle, si on va les voir, si on va leur contact, si on partage les vidéos de Radio Courtoisie et d'autres émissions qui sont très intéressantes.
Oui, vous êtes très présent sur X, cher ami, j'ai vu.
Oui, mais il faut. C'est malheureusement les seuls espaces, parce que du coup, je peux attendre encore longtemps si BFM ou LC devaient m'inviter. Donc, comme je continue de monter, je vais continuer de me battre. Et on doit s'engager. Et c'est pas forcément derrière un parti. On peut faire beaucoup de choses. On a tous des talents. Le bon Dieu l'a donné des talents à tout le monde. On en a tous. Identifiant ces quelques talents qu'on peut mettre au service des Français. Vous voyez, de pas. C'est ça ce qui est important.
Très bien.
C'est ça le
message qu'on doit donner. On va laisser 2 minutes 14 à. François Martin.
Je partage absolument ce que dit Nicolas. Il n'y a pas une feuille de papier à cigarette qui nous sépare sur ce plan. Dans la culture, je rajouterais la spiritualité aussi, c'est-à-dire, je rappelle que dans le texte du général de Gaulle du 18 juin, il dit « La France n'est pas seule, elle n'est pas seule, elle n'est pas seule », il le dit trois fois. S'il le dit trois fois, c'est pas parce qu'il parle des États-Unis et de leur puissance économique, c'est parce que c'est un appel à la Providence, évidemment, ce qu'il fait. Donc il sait que la France n'est rien sans la Providence et on doit se raccrocher à la Providence sous une forme ou sous une autre. Et je pense que les Français, il y aurait un consensus important parce que la France, je dirais, est spirituelle ou elle n'est pas. Ça, c'est la première chose. Et l'autre chose que j'aurais dit, c'est qu'il y a d'abord un État qu'il faut redresser. Et l'État, ça commence par deux choses. Ça commence par l'ordre et la justice. Et la troisième, c'est le respect de ses frontières. Et il faut commencer, c'est ce qu'avait fait le général de Gaulle d'ailleurs, par le redressement de l'État, et la première chose c'est l'ordre. Je pense que quoi qu'on fasse avec la culture, avec tout ce qu'on a dit, si au départ il n'y a pas une notion d'ordre, si les rodéos urbains, si les casseurs ne s'arrêtent pas, si on rentre dans les mairies, etc., tout se démonte.
On casse la figure au maire, éventuellement.
Dans tous les pays où j'ai été, les centaines de pays où j'ai été dans le monde, on accepte partout des régimes autoritaires quand ces régimes maintiennent, et parce que ces régimes maintiennent l'ordre. C'est la première chose. Et ça, aujourd'hui, on est en train de le perdre, et je pense que c'est une des premières choses, un des premiers messages qu'il faut laisser passer.
Mais ce sera parfait pour ce soir, puisque nous allons arrêter l'émission. Et voilà. À propos de spiritualité, eh bien, nous sommes mercredi saint pour ceux qui se préparent à la fête de Pâques. Et donc, voilà, nous
c'est
le rappelons.
Bon moment.
Et je continue demain. J'ai mis la même émission, enfin la même émission, non pas la même, justement, la suite demain. Donc, je donne rendez-vous à nos auditeurs. Et merci encore d'être venu participer à celle-ci.
Vous venez d'entendre La Tête hors de l'eau dirigée par Catherine Rouvier, diffusée en direct sur Radio Courtoisie, mercredi 1er avril 2026, de 14h30 de 14h à 15h30 et réalisée par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal, commandez le CD-ROM pour le prix front de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.